Travel.
Bien joué Jean-François, camembert jaune.
Non mais là on va faire 60 jets de dés chacun. Comme ça on sera tranquille, on aura de la marge.
S'il te plaît, les échecs demandent beaucoup de concentration. Hein ? Ça, on joue pas aux petits chevaux là, là c'est la cour des grands là.
Olivier Mine, c'est la carte mystère.
Soit on annule le tour, soit on passe, soit on change de sens.
Veuillez m'excuser, cette dernière main a failli me tuer.
C'est un sort, Will.
Je sais pas quoi faire.
Balance-lui une boule de feu, que je fasse au minimum 13.
Non, c'est trop risqué.
Vous entrez dans le mystérieux club des platistes. Ici, on est obligé de s'amuser. Les rabat-joies ne sont pas les bienvenus. Nous nous réunissons tous les deuxièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, sur Prune. Tous les mystères de l'univers du jeu de société vous seront révélés. Vous découvrirez les nouvelles sorties, l'histoire d'un jeu de société et les plus noirs secrets du business ludique. À vous de jouer.
Bonjour et bienvenue dans cette sixième aventure du Club des Platistes et toujours aucune défection depuis septembre autour de cette table. Aux commandes techniques de cette émission, Anne-Lise. Anne-Lise.
Bonjour, pardon, j'ai parlé. Oui, je te laisse parler.
Non, tu as été promue puisque nous sommes passés du studio B au studio A.
Et
nous sommes montés.
Je ne suis pas dans la même salle que vous.
Et voilà, la conséquence, c'est qu'il y a un mur entre nous. Donc on va essayer de faire attention. Et autour de cette table, les joueurs et les joueuses de ce dimanche, nous avons donc Cyrielle.
Bonjour.
Azélis.
Bonjour.
Brian.
Hello, coucou.
Et Guilouen qui n'est pas là, mais vous le verrez, il est un peu là quand même. Alors aujourd'hui, on parle création de jeux. Il n'y a pas si longtemps, le monde du jeu de société, c'était un peu comme la BD. C'était à peu près possible de suivre de manière presque exhaustive tout ce qui pouvait se faire. Et aujourd'hui, c'est impossible, reconnaissons-le, à part peut-être pour des intelligences artificielles. Comment tracer les nouveautés, les extensions et les rééditions de jeux avec les changements de règles? Le nombre de ludothèques et de magasins de jeux a explosé ces 30 dernières années et nous l'avions vu dans notre émission sur les jeux et l'argent, à réécouter en podcast. Ce marché est devenu un gros business et de nombreux éditeurs sont désormais gérés par des grosses entreprises qui cherchent à faire du profit. Mais cela veut dire aussi qu'il y a probablement de plus en plus de joueuses et de joueurs, donc de plus en plus de créatrices et de créateurs potentiels à cela. Donc écoutez bien le Club des Platistes. D'abord, Cyrielle vous donnera tous les conseils pour créer un jeu. Puis, vous entendrez Loïc, créateur du jeu Au pire, tu meurs, interviewé par Azilis. Brian, tu nous parleras illustration. Et puis, bien sûr, vous aurez, comme toujours, la petite histoire. C'est le game avec le résultat des As d'or de Cannes par Guildwen. Et le quoi de neuf. Mais d'abord, place à l'énigme. Anne-Lise, nous t'écoutons.
Alors, j'ai vraiment eu du mal à trouver une bonne énigme. Et du coup, je me suis dit qu'on allait faire dans le bon vieux traditionnel, c'est une énigme du père Fouras.
Ah, je suis trop contente.
Ah oui.
Tu prends la voix ou pas?
S'il te plaît. Ok, c'est parti. Il a neigé hier. Un type regarde le jardin de son voisin et remarque qu'il y a deux fois plus de neige chez celui-ci que sur son propre jardin. Pourquoi n'est-il pas étonné?
Ah, ok. Bon.
Okay. Parce que son voisin a toujours été frigide.
Ouais.
Ah. Bon bah je vais essayer de visualiser ça pendant toute l'émission.
Voilà.
Ah moi je pense qu'ils habitent sur une montagne et que le voisin il habite plus haut et que du coup il a plus de neige que celui qui est plus bas.
Intelligent.
Ah, merci.
Ou peut-être que l'autre s'est débarrassé de sa neige chez le voisin, hein, peut-être. Que...
Ah ouais. Donc, genre il a déneigé chez l'autre.
Problème de voisinage. Bon, combien sont-ils, combien sont-elles à se lancer dans la création de jeux? Des centaines en France, très certainement. Qui n'a pas entendu une pote dire « Tiens, je vais créer un jeu, j'ai une super idée !» Alors attention, les jeux à boire inventés à 5h du mat méritent parfois un deuxième test, un peu plus sobre, pour voir si la mécanique du jeu fonctionne vraiment très bien. Et Cyrielle, tu vas nous donner quelques conseils pour nous coacher, hein, pour se lancer dans la création de jeux.
Exactement. Alors, aujourd'hui, je vais te parler à toi qui souhaites créer ton jeu de société. Celui qui te ressemble, celui dont tu rêves, car oui, toi aussi, tu peux briller en société. Mais pour ça, il te faut d'abord de la créativité, de la patience et beaucoup même de patience. Et surtout, de la remise en question. La première étape sera de savoir à quoi tu veux jouer. En effet, si tu nous suis, tu sais aujourd'hui qu'il existe de nombreux types de jeux. Les jeux de plateau, les jeux de dés, de cartes, de figurines. ou encore les jeux coopératifs ou compétitifs, mais aussi les jeux courts, les jeux longs, bref, à quoi as-tu envie de jouer? Quelles sont tes valeurs? Quelle est ton ambiance? Toutes ces questions sont importantes pour pas que tu te perdes dans les limbes de la création. Mets-les par écrit et relis-les dès que tu en auras besoin. Tu es prêt? Prête? Et continuons. Ensemble, je suis avec toi. La seconde étape est de créer un prototype. Comme son nom l'indique, fais simple, voire très simple. C'est juste pour pouvoir le matérialiser. Sois prêt ou prête à le transformer encore et encore. Alors, tel un atelier au centre de loisirs ou un rapide souvenir de tes cours d'art plastique, sors tes ciseaux, colle, papier, carton, crayon et go, c'est parti! Bien, en attendant que tout cela sèche, prends ta plus belle plume et écris les règles de ton jeu. Il faut penser à la mécanique du jeu. Attention, il ne faut pas que ce soit trop facile, enfin, suivant l'âge des joueurs, mais réalisable tout de même. Le but est d'avoir envie d'aller au bout du jeu et même avoir envie d'y rejouer et d'en parler autour de toi. Il faut aussi que tu te prépares à devoir faire et refaire cette étape. Mais j'ai confiance en toi. Tu vas y arriver car tu sais que toutes les critiques sont constructives. Mais ne perds pas de vue ta première étape qui, je te le rappelle, est à quoi tu as envie de jouer, quel est ton objectif, ton ambiance et quelles sont tes valeurs. Quatrième étape, joue et joue encore et encore. Prends des notes, des retours et améliore les étapes précédentes. Et tel un sportif de haut niveau, tu ne perds jamais de vue ton objectif. Tu fais des soirées, encore et encore. Tu rencontres des amis, les amis de tes amis et même les amis des amis de tes amis. Tu me suis toujours? Tu es prêt? Ou prête?
Oui.
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 Alors, on continue, on ne lâche rien. Tu vas t'inscrire dans les festivals. Et là, plus de langue de bois. Tu auras préparé un questionnaire à l'avance. Tu vas expliquer les règles de ton jeu que tu as perfectionné à la force des retours que tu as eus. Tu vas jouer encore et encore avec des inconnus, avec des joueurs aguerris qui vont trouver toutes les dernières failles de ton jeu. Mais ne faiblis pas. C'est pour ton bien. Tu es sur le point de parvenir à ton but ultime. Tu prends chacune des étapes dans l'ordre et tu fais des dernières modifications. Ça y est, c'est la dernière étape. Tu es fatigué, mais content ou contente d'être arrivé à cette nouvelle étape. Tu regardes le chemin parcouru et tu vois comment ton bébé a grandi. Tu es prêt ou prête à te présenter à des éditeurs. Ton jeu et toi, vous ne faites qu'un. Tu le connais par cœur. C'est sûr, vous êtes prêts ensemble à entrer dans la vie de tous les joueurs et joueuses qui en auront envie. Et moi, je suis fière de toi.
Le Club des Platistes sur Prune 92 FM.
Voilà, vous savez tout. Merci Cyrielle. C'est l'heure maintenant de la petite histoire et aujourd'hui, Azélis, tu nous parles de personnes qui ont participé à la création de jeux, mais qu'on a oubliés.
La petite histoire.
Et oui, je vais vous raconter plusieurs petites histoires. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent en jeu dans la création d'un jeu, mais il y en a forcément qui tombent aux oubliettes. On parlera plus tard dans l'émission, Brian parlera plus tard dans l'émission des illustrateurs et illustratrices. Et bah c'est vrai que très souvent, ces personnes-là, on les oublie. Elles ne sont pas forcément très mises en valeur sur la boîte. Je ne sais pas si vous, il y a des noms comme ça qui vous viennent en tête.
D'auteurs de jeux ?
Non, d'illustrateurs et illustratrices.
Oula, non.
Ah ouais, ouais. C'est... Ouais,
je ne lis jamais jusqu'ici.
Eh oui.
Moi non plus, pareil. Ouais.
Ah, c'est terrible.
C'est un peu triste pour eux.
Et c'est assez dommage parce qu'en plus, il y a beaucoup de jeux qu'on choisit en fonction de l'esthétique, de la boîte, des cartes. Et parfois, on commence à jouer, on se rend compte que c'est nul. Et puis donc, il y a souvent les illustrateurs et illustratrices qu'on oublie, mais aussi parfois le créateur ou la créatrice. C'est le cas, par exemple, pour un jeu célèbre. Alors, est-ce que vous avez deviné c'est quel jeu ?
Docteur Maboule.
Ouais. Alors en fait, Docteur Maboule, il a été inventé, l'idée vient d'un étudiant en design industriel, John Spinello. Il a eu un devoir un jour à la fac, fallait qu'il conçoive un jeu électronique. Donc il a fait une boîte en métal avec des trous dessus et il a creusé une sorte de chemin de rainure au fond de la boîte et il fallait guider une sonde le long du chemin sans toucher les bords. Il a eu une très bonne note, il a eu un A. Et puis ensuite, il a montré ça à son parrain. Et son parrain a montré son jeu à l'entreprise de Marvin Glass, une grande entreprise de jeux en plastique. Marvin Glass a beaucoup aimé l'idée, donc il lui a acheté 500 $. Il a dit « Ok, je te l'achète pas cher, mais après, je vais t'embaucher, après tes études. » C'était un gros bobard. Donc, il a clairement fait beaucoup d'argent avec ça, même si c'est vrai que c'est son entreprise qui a ajouté un peu toute l'ambiance, table chirurgicale. Quand même, la partie technique et l'idée à la base n'étaient pas de l'entreprise. Donc parfois on oublie le créateur, parfois on oublie la créatrice aussi. Il y a des jeux dont on a l'impression qu'ils ont simplement été créés par un homme, et bah pas que. Comme le Cluedo dont on a déjà parlé. On dit souvent qu'il a été créé par Anthony Pratt. Et en fait, il a créé avec sa femme Elva. Elle a notamment fait le plateau avec toutes les salles, qui sont en fait les scènes de crime, donc c'est très important. Et lui a une page Wikipédia, mais pas elle. Et on peut lire sur sa page Wikipédia qu'il a créé le jeu avec l'aide de sa femme. Donc on voit comment la co-création d'un jeu devient vite la création d'un homme avec l'assistance de la femme. Et donc finalement, en fait, ce qu'on retient dans un jeu, très souvent, c'est que le nom de la maison d'édition. Moi, c'est ça pour les jeux de mon enfance. Et c'est assez étonnant parce qu'on ne retrouve pas ça, par exemple, pour la littérature ou le cinéma.
Merci, Azilis. Et maintenant, crève un morceau de Mademoiselle K.
Thank you.
C'était Mademoiselle K avec Crève. Et Crève, ça nous permet d'évoquer Loïc, qui a inventé un jeu qui s'appelle Au pire, tu meurs. Et Azilis, tu es allé le rencontrer.
Et moi, je vais tuer, 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 je vais tuer.
Bonjour Loïc, tu as créé un jeu en famille, Au pire tu meurs. Avec qui est-ce que tu as créé ce jeu ?
J'ai créé le jeu avec mon petit cousin et mon oncle. Mon petit cousin jusqu'ici était lycéen, là il est passé en études sup, il a eu son bac. Mon oncle lui est auteur de romans, il fait essentiellement des polars, et moi je suis tatoueur. On a créé ça tous ensemble. À la base c'était leur idée à eux, moi j'ai fait la partie graphisme, je me suis greffé sur le projet plus tard.
Et comment est-ce qu'ils ont eu cette idée de jeu ?
Alors en réalité, ils ont toujours beaucoup joué aux jeux de société. À la base, ils étaient en train de passer des vacances tous les deux sur la période de fin octobre, les vacances d'Halloween. Ils regardaient un film d'horreur, ils jouaient à des jeux de société. Ça faisait longtemps qu'ils avaient envie d'en créer un. Du coup, ils se sont dit qu'ils avaient envie de créer un jeu sur le thème de la mortalité. Et c'est comme ça qu'est né les prémices de l'idée de Au pire, tu meurs.
Est-ce que tu pourrais présenter un peu rapidement le jeu ? C'est quoi le but du jeu ? Comment on y joue ?
Alors le but du jeu et la manière dont on l'a présenté en fait pour le vendre, c'est un joyeux jeu de massacre en famille. Le principe, c'est que chacun, en début de partie, pioche un personnage qui a une espérance de vie qui lui est propre. C'est-à-dire que tous les joueurs commencent avec des chances en fait de gagner qui sont différentes. Et en faisant des petits coups en traître et du bluff, le but est de tuer tous les autres joueurs pour gagner la partie.
Et combien de temps est-ce qu'ils ont mis à concevoir un peu une première version du jeu, un premier prototype ?
Alors la première version du jeu, ça s'est conçu assez rapidement. Elle avait absolument rien à voir avec celle qui est sortie, puisqu'initialement c'était un jeu de plateau où on devait avancer case par case. Le but du jeu, c'était de finir dernier. C'est-à-dire que les 100 cases du plateau représentaient 100 années de vie, et le but du jeu était d'être le dernier vivant. Alors c'est actuellement le même but du jeu pour notre jeu de cartes, mais là on avait un jeu en fait qui était beaucoup plus lourd, qui était assez complexe, et surtout en fait les autres joueurs avaient beaucoup d'impact sur le déplacement de notre propre pion, si bien qu'on pouvait beaucoup embêter les autres joueurs, mais par contre son pion à soi était plutôt ballotté par les événements que vraiment géré par le joueur, ce qui fait que ça faisait des parties qui étaient longues, complètement bordéliques, et finalement un peu lourde à jouer. On avait fait quelques parties test, on s'était un peu ennuyé sur la fin, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour un jeu.
Et du coup, quand est-ce que toi, tu as été invité à rejoindre un peu ton oncle et ton cousin dans la création ?
Bah alors en fait, j'ai été invité là-dessus assez rapidement, puisque une fois qu'ils avaient conceptualisé le jeu, ils avaient besoin de quelqu'un pour leur faire des visuels. Moi, j'ai fait des études en graphisme, donc ils m'ont demandé mon aide, je leur ai fait un coup de main. Initialement, c'était juste pour produire un prototype, il n'y avait vraiment pas de but à long terme pour la création de ce jeu. C'était faire un proto qu'on pourrait jouer en famille, où on pourrait rigoler sur un jeu qu'on avait inventé nous. Comme le jeu était pas très intéressant, on l'a remanié, on a fait notre jeu de cartes, on l'a testé pareil en famille avec des amis, on a fait pas mal de parties test et il plaisait bien. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain succès, les gens nous disaient qu'ils s'étaient bien amusés, que c'était drôle, que c'était assez irrévérencieux parce qu'il y a un petit peu d'humour quand même présent sur les cartes à jouer. En règle générale, ça plaisait bien. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'en fait rien ? Est-ce qu'on a créé un bon jeu et on s'arrête là ? Ou est-ce qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin ? Et c'est là, en fait, qu'on a décidé de le mettre sur la plateforme Ulule pour le produire grâce au financement participatif. Quand on a fait le financement participatif, on présentait en fait sur la plateforme le jeu. Ensuite, on avait un objectif à remplir. L'objectif ayant été atteint, du coup, notre projet était validé par Ulule. C'est-à-dire que si le montant demandé n'est pas atteint, en fait, les contributeurs sont remboursés et le projet est abandonné. Nous, on a réussi à valider notre objectif, donc on a pu produire notre jeu. Derrière, le jeu qu'on a produit, en fait, avait pour but de récompenser les contributeurs Ulule. Donc tout le monde a reçu une ou deux boîtes du jeu en fonction de la somme dont ils avaient bien voulu nous faire don. Ensuite, on avait une version en fait qui n'était pas commercialisable puisqu'il manquait beaucoup d'informations légales en fait au dos de la boîte, on n'avait pas de code barre, etc. Donc cette version-là du jeu n'a été produite qu'une seule fois pour Ulule. Suite à ça, on a eu en fait un contact avec Asmodée. On a pas mal discuté avec eux. Il s'est avéré qu'ils étaient d'accord pour distribuer notre jeu. Donc on continuait en fait à le produire. Vu que là, il a fallu produire une version commerciale, il a fallu qu'on crée une entreprise. Donc aujourd'hui, on a une entreprise à nous qui s'appelle Now Game. On a pu voir avec Asmodée pour qu'ils distribuent notre jeu, et aujourd'hui on est distribué dans la plupart des petites boutiques spécialisées dans le jeu de société. Mais du coup, en fait, il a fallu faire pas une refonte complète, mais il a fallu recommencer à bosser pas mal sur la boîte, notamment le design, parce que sur la première version, on avait un petit personnage un peu cartoon sur le dessus qui représentait la mort, enfin la personnification de la mort, et on nous a fait beaucoup le reproche que ça ressemblait un petit peu trop au jeu de société La Petite Mort. Du coup, il a fallu le modifier, on a mis à la place un personnage de squelette avec un poignard dans la tête. On a changé quelques petits détails sur la boîte, quelques designs sur les cartes, et surtout rajouter toutes les mentions légales et le code barre au dos de la boîte.
Et quel est l'avis du jeu aujourd'hui ?
Alors l'avis du jeu, pour l'instant, il reste encore des boîtes à écouler. Il est toujours vendu dans les petites boutiques spécialisées. Pour l'instant, ça fonctionne. On vend quelques dizaines de boîtes par mois. Après, c'est pas non plus quelque chose qu'on a fait ni pour se faire connaître au grand public, ni pour en vivre. Sachant que moi, j'ai mon travail de mon côté qui me prend beaucoup de temps. Mon oncle a eu la chance d'être papa de nouveau il y a quelques temps. Mon petit cousin a dû se consacrer pour passer son baccalauréat, puis après sur ses études supérieures. On a chacun en fait beaucoup de choses à faire déjà dans nos vies. Donc pour l'instant, on le laisse vivre tranquillement, puis on verra bien ce que ça donne. S'il arrive à évoluer un jour, pourquoi pas. Le rêve, ce serait d'être vendu sur des surfaces de distribution un petit peu plus grandes, comme une Fnac, voire pourquoi pas Leclerc. Ça, ce serait exceptionnel, mais ce serait qu'on... Enfin, il faudrait déjà que le jeu marche très 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 bien pour qu'on en arrive là.
Bon, bah, merci beaucoup Loïc, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci Loïc, et quelle voix de radio pour Loïc quand même. Tu viens quand tu veux. Il est désormais question d'un festival à Cannes qui ne décerne pas des palmes mais des as. Oui, le festival de jeux de Cannes s'est déroulé il y a quelques semaines et on connaît les résultats. Ils ont été décortiqués par Gildouen, qui s'est également posé la question suivante, mais que deviennent les jeux primés ? Gildouen, dans des conditions extrêmes, est-ce que tu nous entends, Gildouen ?
Bonjour.
Oui, Gildouen, t'es en direct, hein, tu peux y aller.
Bonjour.
Gildouen, t'es en direct, tu peux y aller.
C'est le game.
Quand on s'intéresse aux prix récompensant les jeux de société, on s'aperçoit qu'il en existe beaucoup. Si l'As d'or de Cannes et Spiel des Jahres sont sûrement les plus connus, il y en a beaucoup d'autres, et certains sont très spécialisés. Ainsi, le Croc d'Or et le Graal s'intéressent, à l'instar du prix du rôliste, aux jeux de rôle. Le Grand Prix des Illus, décerné lors du Festival Finistère de Jeux, s'intéresse spécialement au travail des illustrateurs. La Coupe des Duellistes récompense les jeux exclusivement pour deux joueurs. Le Festival Ludique International de Parthenay, FLIP, a introduit en 2021 à l'occasion de sa 35e édition, une nouvelle catégorie, la catégorie écoludique. Celle-ci a pour objectif de mettre en avant des jeux de société édités dans une démarche raisonnée, privilégiant le circuit court et possédant une empreinte carbone faible. Dans le palmarès de l'As d'or, nous trouvons des jeux que vous connaissez sûrement. En 1998, Abalon, As d'or de la décennie, toujours édité, ou Tic Tac Boom dans la catégorie familiale. En 2001, Blocus, ce Tetris sur plateau, ou Cartagena, cette fuite de pirates à travers une île grâce à des symboles sur des cartes. En 2005, Les Aventuriers du Rail, décliné dans de nombreuses versions selon les continents et les pays. En 2009, Dixit, un jeu où l'imaginaire est roi et qui nous offre à voir de magnifiques illustrations. En 2011, Seven Wonders, que l'on ne présente plus, c'est le jeu le plus primé au monde. En 2012, Takenodo. En 2014, Bâtisseur et Concept, ce jeu où l'on associe des idées pour mener l'autre à deviner ce que l'on veut. 2016, Mysterium, un mélange entre Dixit et le Cluedo. 2017, Unlock, adaptation à la maison d'un escape game. En 2019, The Mind. 2020, Attrape-Rêve, que l'on a déjà testé ici. 2022, Seven Wonders fait son retour avec sa version Architects. 2023, Je ne connais pas les jeux spécialement, mais voici les primés. Flashback Zombie King, Zombie Kid, un jeu d'enquête par image, partez à l'aventure et coopérez en famille ou entre enfants dans un voyage figé dans le temps, votre mission, déjouer les plans diaboliques des zombies. Acropolis, un jeu de stratégie simple avec des éléments en 3D, où vous devez gagner du prestige en construisant les meilleures cités au cœur de l'Antiquité, de l'Antique Méditerranée. Chez Daspil, nous trouvons au fil des années, pour les plus renommés, Carcassonne, Aventurier du Rail, Dominion, Dixit, Seven Wonders, Anabi, Colt Express, Codename. Mais on trouve aussi beaucoup de jeux moins connus. Peut-être certains titres vous parleront quand même, mais malgré les prix, le succès n'a pas été celui des jeux précédemment cités. Le Défi du Sphinx, en 98. Rendez-vous en vide-grenier ou sur les sites d'occasion pour le trouver. Le jeu d'Hélice en 2000, Alhambra en 2003, Site en 2017 pour ne citer que. Le Défi du Sphinx est un jeu de cartes éducatif. Il permet aux joueurs de traverser l'histoire et de partir à la découverte de personnages, des monuments et des faits importants de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le but du jeu, gagner 20 points de connaissance en répondant aux énigmes et en faisant preuve de tactique et de stratégie. C'est un jeu familial élaboré en collaboration avec Hachette et des membres de l'Éducation nationale. Pour tous les détails sur les différents palmarès, je vous invite à visiter le site philibernet.com. À côté de ces prix, le prix Pion d'Or récompense les jeux par rapport à leur vente, sous contrôle d'huissier et de bilan comptable. Dans les lauréats, nous trouvons des jeux déjà mentionnés, 6 millions d'exemplaires Dixit Time's Up, ayant dépassé 3 millions 6 qui prend, à plus de 1 million Seven Wonders et Mysterium, 750 000 concepts, 500 000 Colt Express. Les récompenses et le succès commercial font que ces jeux connaissent des extensions parfois nombreuses, comme pour Dixit et Seven Wonders. Si les prix peuvent guider les joueurs grâce à la mise en lumière qu'ils font sur un jeu, ils ne sont pas la seule raison du succès et ne le garantissent pas à tous les coups. Un mauvais jeu, on y joue une fois et c'est tout. Un bon jeu, on le ressort, on le montre à de nouvelles personnes qui à leur tour l'achètent et le montrent. Le bouche à oreille gardera toujours beaucoup de force, mais comme pour l'œuf et la poule, le joueur 1 a-t-il ou non acheté le jeu influencé par la récompense ? Quoi qu'il en soit, de nombreux jeux sortent chaque année et sur l'ensemble des jeux primés, seuls quelques-uns parviennent à confirmer et amplifier leur succès au fil des années.
Retrouvez le Club des Platistes en podcast sur prune.net.
Et la lutte musicale continue avec les Vulves Assassines.
La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Libérez vos camarades, ouvrez la cage, on soit ton frère. Il passe cette courte menace d'une jeune image et de tout le reste. Les mots croisés, c'est fini. Si tu soutiens scolaire, qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite. On se battra pour la garder. La retraite. À 60 ans, on
Telle est Vulve Assassine avec la retraite à 60 ans. Brian, tu vas pas nous parler de ta retraite, hein, tu vas nous parler des illustrations de jeux.
Et oui, je vais essayer de prendre ma voix la plus suave, suave, j'adore ce mot, pour cette chronique. Alors, vous est-il déjà arrivé d'être soufflé, bluffé, époustouflé par la beauté d'un jeu, par son matériel, ses illustrations ? Est-ce que vous avez alors éprouvé plus de plaisir à y jouer ? Le thème est l'un des piliers les plus importants d'un jeu de société. La direction artistique et sa beauté jouent un rôle énorme dans l'immersion, dans la contextualisation et génération du thème. L'esthétique d'un jeu exerce une influence considérable pour le plaisir que procure ce jeu. Après quelques recherches, il se trouve que personne ne semble se mettre d'accord sur le classement des plus beaux jeux de société. Certains jeux reviennent malgré tout plus régulièrement, comme Everdell. Alors moi je connais pas jeu, alors je vais vous lire les critiques. Considéré comme l'un des plus beaux jeux de société avec un plateau en relief, Everdell est d'une beauté à couper le souffle. C'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on tente d'acquérir le plus de points en construisant une ville florissante. Et tout ceci avant que les vents froids de l'hiver ne s'installent. Dans ce classement approximatif, on y trouve aussi le Dixit, qui n'a plus besoin d'être présenté, tellement il est reconnu. C'est le Katy Perry des jeux, il est coloré, dynamique et parfois déroutant. Alors certains jeux ont été illustrés par une seule personne et d'autres par plusieurs illustrateurs. Il en existe des plus colorés, des plus vieillots, certains sont plus épurés et d'autres plus chargés. Mais heureusement, le design ne fait pas tout. On a tous un jeu dans notre placard qui paye pas de mine, mais qu'on adore malgré tout. D'ailleurs, plus les jeux sont récents et plus ils sont travaillés. Les jeux de société de notre enfance avaient des graphismes plus simples, comme le Monopoly ou le Milborn, mais qu'en est-il des tout premiers jeux ? En abordant le sujet des illustrations, je suis venu à me demander si on avait des traces de la fabrication du jeu de cartes classique, et c'est particulièrement intéressant. Les plus anciennes cartes à jouer connues sont d'origine chinoise et apparaissent durant la dynastie Tang, donc entre 618 et 907, au moment où le format des livres passe du rouleau à la feuille. Elles semblent avoir été développées à partir des anciens dés en provenance d'Inde et en liaison avec les pratiques divinatoires. Et petite parenthèse, 200 ans plus tard, au début de la période Song, les dés divinatoires évoluent en dés de jeu et donnent naissance aux dominos et aux mahjong. En Europe, les jeux de cartes que nous connaissons ont commencé à être utilisés dans la seconde moitié du XIVe siècle, en provenance des civilisations orientales. Ils nous seraient parvenus via les Mamelouks, anciennes milices égyptiennes. Et oui, on en apprend des choses, ce sont les membres d'une milice formée d'esclaves affranchis, d'origine non musulmane, au service de différents souverains musulmans. Selon plusieurs documents, ce type de jeu a d'ailleurs été décrié dès son arrivée par les casseurs d'ambiance de l'époque. Je parle bien sûr de l'Église, qui était contre les jeux de hasard. Ce jeu, à la base de 47 cartes, est donc arrivé en Europe et chaque pays se l'est approprié. En France, l'histoire avec un grand H influence beaucoup le jeu de cartes classique. En 1704, les gens se rendent compte que le jeu représente un état politique composé de quatre corps. Les ecclésiastiques, gens de cœur, la noblesse militaire et ses armes, les piques, les bourgeois aux maisons pavées comme des carreaux, et les trèfles revenant tout naturellement aux paysans. Pendant la Révolution française, la carte devient un véritable tract politique. Et c'est ainsi que des jeux furent imprimés, remplaçant les rois par des génies, les dames par des libertés, les valets par des égalités. C'est comme ça que sous la terreur de la République, l'ancienne dame de cœur devient la dame qui incarne vertu et liberté nouvelle. Elle personnifie la fraternité et la liberté de culte. Dans le reste de l'Europe, le jeu reste le même, mais avec des symboles qui changent. Alors qu'en France, nous avons le cœur, le pique, le carreau et le trèfle, en Espagne, on peut y trouver la coupe, le bâton, l'épée et l'or. En Allemagne, le cœur, la feuille, le gland et le grelot. Et ainsi de suite pour chaque pays. Alors aujourd'hui, qu'ayant perdu son aspect politique, les jeux de société s'incarnent par leur illustration et leur design. Et c'est le cas du jeu Dany, auquel nous allons jouer tous ensemble, parce que c'est l'heure de Let's Play.
Let's Play.
Here we go!
Alors, aujourd'hui, nous allons donc jouer au jeu Dany.
Dany.
Dans ce jeu de cartes et de communication créé par Phil Viscaro, incarner Dany ou une de ses personnalités... Une de ses personnalités, point. Pour exister, elles doivent communiquer entre elles en jouant avec les souvenirs de Dany. Dani doit tout mettre en œuvre pour qu'elles échouent et disparaissent à jamais. Composer avec les souvenirs de Dani, communiquer pour exister dans sa tête, mais attention, Dani fera tout pour vous faire échouer. Alors, comment ça marche concrètement ? Chaque joueur incarne un personnage. Donc là, autour de la table, nous avons 4 joueurs. Sur 4 joueurs, il y a un Dani, et Dani veut faire échouer les autres joueurs. Le but du jeu, c'est de trouver un mot. Donc là, notre personne leader, qui change à chaque tour, là, c'est Cyrielle. Donc Cyrielle a reçu une liste de 5 mots.
Oui.
Elle est tombée sur un des 5 mots, et grâce à des images qui ont été illustrées par Bengal, donc un tatoueur qui est à Nantes, elle va essayer du coup de nous faire deviner ce mot-là. Donc elle a une carte avec 5 mots, elle a 7 cartes images dans les mains, qui sont des cartes très schématisées qu'elle va essayer un peu de nous expliquer. Peut-être que pour vous imaginer comment elles sont, vous pouvez fermer les yeux, à part si vous êtes en voiture. Voilà, alors le but pour Antoine, Aziliz et moi, ça va être de deviner le mot, et à chaque tour, on va devoir essayer de deviner le nouveau mot. Le but du jeu, ça s'arrête quand on a réussi à trouver 6 mots ou ça s'arrête quand on a perdu sur 3 mots. Et à la fin, on va devoir essayer de deviner qui est Dani. Parce que Dani, son rôle, c'est ben, justement de pas nous faire deviner le mot. À toi, Cyrielle.
Alors, je vais vous faire la liste des mots que j'ai reçus. Et ensuite, je vais la laisser visible. Mais pour nos chers auditeurs, je vais les citer. Donc, il y a indécision. Enfer, péché, guerre et paix, et migrant.
Wow.
Donc je vous laisse la liste de mots visibles. Mm-hmm. Et là, je vais essayer de vous faire deviner un des mots avec les cartes que j'ai, qui sont vraiment très belles. Elles sont en noir et blanc. Et
t'as combien de cartes là dans ta main ?
Alors j'en ai 7.
Que tu as pioché au hasard dans un gros paquet de cartes.
C'est ça, que j'ai pioché au hasard. Donc, je dois me débrouiller avec ces 7 cartes-là.
Okay. Bon courage.
Bah, bon courage à vous.
J'imagine que ça ne va pas correspondre exactement à indécision, enfer. Ouais.
Bah, ça va être compliqué de faire coller exactement. Donc, la première carte que j'ai choisi de vous montrer, je vais vous la décrire, c'est une dame qui a des formes généreuses, qui chevauche un animal... un animal qui est entre la chèvre, la licorne et le poney, je ne sais pas trop. Ouais. Hein.
Et on voit que la tête. Hein.
On voit que sa tête et elle montre, surtout, elle montre vers la direction, une direction.
Ok.
Voilà. Elle n'est pas indécise, quoi.
Ouais, l'index bien pointé. Là.
Voilà, donc ça, je la pose là.
Rappelez les mots pour nos auditeurs.
Indécision, enfer, péché. En 4, on a guerre et paix. Et en 5, on a migrant.
D'accord. Sachant que Cyrielle peut en plus mettre des cartes sur d'autres cartes, cacher des parties d'une autre carte pour juste montrer une partie de la première, peut-être une autre partie de la deuxième. Essayer de composer en fait quelque chose avec toutes les cartes. C'est ça qui est intéressant dans le jeu.
Bon, elle n'a pas l'air indécise là, j'ai l'impression quand même, cette dame. Hein.
Non. Est-ce qu'elle ne partirait pas à la guerre là,
ouais,
un peu comme sur son destrier
Il y a un petit côté comme ça.
Je vais vous mettre une autre carte, parce que sur une seule carte, c'est compliqué. Je rajoute un château, un château qui semble un château de sable, mais qui est quand même à taille humaine, voire même au-delà que la taille humaine. En haut de la tour du château, il y a comme un nuage qui encercle toute la tour. Et en bas, il y a un homme en slip ou en maillot de bain, avec son petit râteau, son seau et un mini château en bas. Et je vais la mettre vraiment dans la direction...
Juste à côté. Hein,
juste à côté.
Ouais.
Et la femme qui chevauche cet animal montre
donc,
cette direction-là.
L'emplacement des cartes compte vraiment, en fait.
Oui, oui, l'emplacement des cartes vraiment a son importance.
Je dirais peut-être migrant, parce que cette femme sur cet animal peuvent penser un peu au voyage vers ce château. C'est peut-être trouver un peu... un lieu, une localisation.
Ouais.
Ou le fait que ce soit un château, moi ça me fait penser à guerre et paix.
Oui.
Ça peut être, elle vient, elle attaque ce château-là.
Alors la décision sera prise par Antoine, parce que c'est toujours le joueur à droite
du leader. Au Sénat, d'accord.
Pardon. La décision. un peu.
T'es d'accord avec moi, Antoine ?
Ouais, bah, je croyais qu'on avait le droit à une troisième carte. Non, on n'a pas.
Alors, Cyrielle peut mettre les 7 si elle veut.
Ah, ah oui, d'accord.
Ça
ne
va pas nous embrouiller.
C'est toi, c'est toi qui décides d'arrêter
on
ou
met,
pas.
On met autant de cartes que l'on veut, Brian ?
Complètement.
D'accord. Ouais.
Mais il faut faire attention, c'est Antoine et peut-être Dany, il peut peut-être, veut peut-être nous tromper aussi.
Ah. J'ai trop un doute sur qui est Dany, perso.
Ah. Ah oui, donc je peux décider de manière très autoritaire, sans vous consulter ?
Complètement.
Si c'est ta manière de faire, si c'est tes valeurs.
est-ce que ce sont mes valeurs ?
Mais à la fin du jeu, il faut qu'on décide qui est Dany.
D'accord. Moi, j'étais assez d'accord avec Guérépé, quand même. Je ne sais pas ce que t'en penses, Brian, mais...
Moi, je partais plutôt sur Migrant, mais...
Ah oui, Migrant, t'as dit au début.
Mais ça me parle aussi, Guérépé.
Est-ce qu'on a le droit... Non, c'est Cyrielle qui demande. Est-ce qu'on aurait le droit de demander, vu qu'on n'est pas d'accord, une troisième carte ou... C'est... Non, tu peux dire non,
alors,
j'imagine.
Personnellement, j'y réfléchis pour savoir si ça peut vous aider, si c'est dans l'intérêt aussi de mon personnage.
Bien sûr, tu peux être Dany.
Je peux être Dany.
Ah, elle peut être Dany.
Peux être Dany.
Après, il a un petit saut, là, le bonhomme, à côté du château en sable. Donc peut-être que c'est péché, avec un accent.
Péché. Ah ouais, ah, c'est tiré par les cheveux. Ah. Je pense que c'est plus évident comme les.
C'est un accent aigu, hein. C'est pas un accent circonflexe.
Dans aucun sens, ça marche. En
non,
fait.
C'est vrai. Je détache pas. Pêche au coquillage. Mais non, c'est le péché.
Bah, je pense que ça va plus vous embrouiller qu'autre chose si je mets d'autres cartes.
Bon ben, allez.
On se lance.
On se lance. On tente guerre et paix. La réponse numéro 4.
Alors Cyrielle.
Échec.
C'était Migrant.
C'était Migrant.
Oh non.
J'ai un peu hésité parce que je t'ai vu hocher la tête. Ça ne s'entendait pas, mais
peut-être que ça me dédouane un peu comme personnage de Dany.
C'est clair.
J'essaie d'aller vers la bonne direction.
Ah. C'est ça. Mais peut-être que ça oriente Azilis vers le personnage Dany, puisque
moi,
c'est elle
pour
qui
moi, Dany, c'est Azilis.
Ouais.
Ouais.
Ok.
Allez,
moi j'y croyais à Guérépé.
Moi aussi, tu
c'est vrai que je me suis dit, elle hoche la tête, mais c'est pas possible, ça marche beaucoup mieux pour Guérépé.
Je vous propose de faire un deuxième tour rapide.
Ah bah oui.
Antoine, est-ce que tu veux.
Allez.
Ok, alors
allez,
je te
maintenant qu'on a compris la mécanique.
Bah, ouais.
Mais vous n'avez pas deviné qui était Dany là, du coup
Non.
Parce qu'il faudrait plus de temps.
Ah oui, parce que vous allez faire un deuxième tour
là,
en gardant vos personnages. Okay.
Tout à fait.
Est-ce qu'à la technique, on a le droit de faire un deuxième tour?
Ouais. Je sais pas, je vais réfléchir.
Je pense qu'il va falloir vite choisir tes cartes.
Alors, donc, on a 5 mots. Hein. Le premier, c'est cosmonaute. Le deuxième, c'est protection. Le troisième, c'est bonheur. Le quatrième, c'est simplicité. Et le cinquième, c'est emballage. Alors, il faut que je découvre en même temps que vous.
Alors, une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'Antoine a pioché aussi une carte qui lui indique quel numéro... du mot, il doit nous faire deviner. Donc, ce n'est pas lui qui choisit par rapport à ces images. Hein. Ça lui a été imposé par les cartes.
Oui.
Donc, cosmonaute, protection, bonheur, simplicité, emballage. Alors, je vais poser une première carte. Alors, c'est un personnage chauve avec des tatouages sur les bras, mais il faut imaginer qu'il est coupé au tronc. On voit que son ventre, enfin son corps et puis sa tête... Il fume une cigarette, les tatouages c'est des serpents, et il a un grand grand sourire. Voilà, on voit un de ses bras. Donc,
Je l'aime bien, c'est mon style de mec.
Ouais, pas mal.
C'est un bad boy. En vrai, c'est un bad boy.
Ouais, un peu bad boy.
Moi aussi, c'est mon style de mec. Ouais.
Je pense qu'on peut essayer de se décider avec une carte. Moi, je dirais emballage, ça donne envie de l'emballer.
Ah ouais.
Ah ouais.
Ah, c'est comme ça. Moi, je dirais protection.
Mais je vous ai dit que c'est Azilis, c'était Dany.
Oui.
Bah moi je dirais bonheur presque.
Ah ouais, il respire pas le bonheur.
C'était
moi je dirais protection.
Les mots encore Antoine.
Cosmonaute, protection, bonheur, simplicité et emballage.
Entendu. Ou alors
simplicité,
c'est une blague,
c'est
avec
pas simplicité, ça c'est sûr.
Protection, il y a comme une clé sur son bras, il a comme des tatouages.
Ouais.
Avec une clé sur le bras. Bon.
Bon, alors je vais vous mettre une deuxième carte. C'est un personnage qui chante sur une branche. Il est tout nu. C'est un garçon, il a un zizi. Et il y a deux oiseaux qui le regardent d'un air un peu austère. Et lui, il est en train de chanter.
Ah, bah c'est bonheur.
Ah, ouais.
Bah, les oiseaux n'ont pas l'air heureux. Hein. Moi, je dirais protection, on dirait deux cartes du corps.
Et j'avais envie de rajouter, alors je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, de rajouter deux cartes par-dessus.
Ah si, tu peux.
Si.
Pour cacher les oiseaux.
Ah.
Voilà, pour cacher les oiseaux. Okay. Voilà.
Ah bah c'est emballage parce qu'il est à poil. Ah, simplicité, en toute simplicité.
Alors, donc, on est à poil, on est emballé.
Tu commences à me convaincre.
Non, il n'est pas emballé.
Il est dans le plus simple appareil.
Donc, on regarde. Voilà.
Il n'a pas d'emballage, quoi.
Il va falloir donner votre dernier mot pour choisir le
c'est Azilis qui doit vous trouver.
Qui tranche, là.
Je dirais simplicité parce qu'il est dans le plus simple appareil.
Moi, je dirais bonheur, mais c'est Azilis qui tranche.
Bah, du coup, je vais dire aucun des deux, je vais dire emballage.
Ouais, d'accord.
Alors, pas du tout emballage. Je sens que t'es Dany, là, Azilis.
C'est parce que j'ai envie d'emballer.
Emballage. Non, c'était bonheur. Bonheur, il est heureux, ce personnage. Ouais, bah ouais, un peu.
Et on choisit qui est Dany ?
Et on va choisir.
Alors.
Bah, Aziz.
Ouais, Azilis.
Direct.
Emballage.
Quelle horreur. Elle me fait peur. Ouais, je très mal mon jeu.
Alors, normalement.
C'est Aziz, putain, je l'ai su direct.
Mais oui.
Normalement, on fait plusieurs tours, mais au moins comme ça, vous avez compris le principe. Et voilà pour le jeu Dany. Il me semblait que je voulais rajouter quelque chose, mais ça s'est envolé.
On rappelle l'illustratrice ? Non, c'est un illustrateur ?
C'est un illustrateur donc, qui s'appelle Bengal, qui a fait ces images et qui est un tatoueur nantais. Okay. Et donc ces images ressemblent aussi à ses tatouages.
Trop cool.
Elle revient. La musique comme un boomerang.
La langue, ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté, de ma mémoire qu'à ma bringue, et ton amour m'ont épuisé. Je fonds des bombes et des bandes, agité mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang, me revient des jours passés, assaini comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher, peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des boumes et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de sangle que tu m'as fait endurer. Je sens des bombes et des bandes agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashback enchaîné. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrai.
Quoi de neuf ?
Toc toc, quoi de neuf ? Désolé, Dao, Dany, on vous a coupé comme un boomerang. Quoi de neuf ? La moitié de 18, dirait mon ami Bobby, et je profite de cette moitié de 18 pour vous parler du zinc de trèfle. Le zinc de trèfle, c'est quoi ? C'est un café-jeu associatif situé au 14 rue Grande-Biesse à Nantes. Il ouvre le mercredi, le samedi de 18h à minuit et le dimanche de 14h à 19h. Quand on est adhérente à la maison des jeux ou adhérent, on est de fait adhérent au zinc de trèfle et donc dans ce rad, on peut y jouer et il y a tous les mois une programmation pour s'amuser. En mars par exemple, On pourra s'initier le 22 au jeu de rôle, le 25 soirée spéciale As d'Or de Cannes, dédicace Gildwen. Toutes les infos sur leur Facebook, désolé ça m'arrache un peu de faire de la pub pour ce réseau dit social, mais enfin toutes les infos sur Facebook. Et sinon je profite de ce moment publicitaire pour faire une dédicace à l'association La Sauce Ludique en trois mots. La Sauce Ludique, voilà, ça y est. Voilà. Compagnie de jeux mobiles qui a pour vocation d'amener le jeu dans des structures ou dans l'espace public à travers l'installation d'espaces originaux. Et en février, ils sont allés animer des sessions de jeux à Port-Boyer, au Clotereau, à Rezé, etc. Ils ont une belle palette de propositions, resto des doudous pour les petits, Mario Pitch Kart, Escape Caravan, Escape Phone, jeux d'enquête, bar à jeux mobiles. Et en plus, si vous êtes une asso nantaise, vous avez le droit à une réduction sur les animations. Bref, n'hésitez pas à les contacter. Je répète le nom de cette association, La Sauce Ludique.
Le Club des Platistes sur Prune 92 FM.
Et maintenant, c'est la réponse de l'énigme.
Bonjour. Alors, je répète l'énigme, oui. Peut-être. Vous l'avez toujours en tête ?
J'ai encore une nouvelle idée.
De neige, de pelouse, tout ça. Ok. Il a neigé hier. Un type regarde le jardin de son voisin et remarque qu'il y a deux fois plus de neige chez celui-ci que sur son propre jardin. Pourquoi n'est-il pas étonné ?
Parce qu'il a un jardin deux fois plus grand.
Waouh !
Bravo, très bonne déduction.
Ah, Cyril, elle est dégoûtée.
Ah, direct.
Ah, Kidwen, t'es pas là, j'en ai profité.
C'était ça ton idée, Cyril ?
Non, absolument pas. Non, mais moi, ils sont sur deux montagnes différentes. Du coup, ils sont pas sur le même versant. Du coup, ils ont pas eu la même quantité de neige. Ah, je suis partie trop loin.
Ah, mais Azilis, mais t'as réfléchi toute l'émission. Mais t'étais pas concentrée dans le jeu, ça.
J'avais l'idée au début. Je me suis dit, je vais laisser mûrir. Et j'ai pensé que t'avais la même idée. C'est pour ça que j'ai parlé hyper vite. Pour dire avant toi.
Ah, c'est méchant.
Ouais. Bah ouais, mais maintenant je repasse en tête, je crois que j'ai doublé Gildwen un nombre d'énigmes réussies, donc un gros enjeu quand même.
Ah, t'as battu
bonjour.
T'as battu le record.
C'était quoi le ton idée, Cyrielle ?
Bah j'ai dit, je pensais qu'ils étaient sur deux montagnes différentes et que du coup ils n'étaient pas sur le même versant. Et du coup, bah, suivant sur le versant de la montagne où tu es, il neige plus ou moins. Ah ouais, j'étais trop loin.
Ouais, souvent, il ne faut pas aller chercher aussi loin.
Bah ouais, mais sorry, quoi. Mon cerveau va trop vite.
T'es une scientifique.
Parfois. Qui s'ignore.
On t'a pas entendu, hein, donc Brian, pas de poète.
Si, moi, ma réponse, c'est qu'il y en a un qui était dans un appartement.
Oui. Non, mais quel rapport ?
Bah, il n'y a pas de jardin.
Ah ouais, du coup, voilà, faut pas s'étonner, à un moment donné.
La neige, ça n'existe plus, de toute façon. Hein.
Oui.
Alors, a-t-on le temps de bien jouer à nos jeux ? Parfois, c'est un peu comme des spectacles de théâtre qui mettent un an, deux ans à se créer et puis qui n'ont le temps de tourner que cinq ou six fois dans des salles. Un jeu de société qui sort, c'est comme un film. Si au bout d'un mois, il n'a pas trouvé son public, il disparaît des rayons des magasins de jeux pour faire place aux autres. Or, certains jeux ont besoin d'un temps de bouche à oreille pour trouver leur public. J'ai pas réussi à trouver le nombre de jeux sortis cette année. Alors en 2012, sur Wikipédia, on parlait de 900, mais c'était en 2012. Et quand on sait que le jeu a connu une croissance à deux chiffres, comme on le dit dans les milieux économiques...
Depuis mon coaching.
Voilà, sur cette dernière décennie, on peut imaginer un nombre assez important. Alors, en guise de conclusion, quand vous avez un jeu qui vous plaît, profitez-en. Et quand vous estimez en avoir bien fait le tour, eh bien, n'hésitez pas à créer vos propres règles. Hein. On l'a tous fait dans les jeux. Voilà, c'était le Club des Platistes dans son sixième tour de jeu. On se retrouve dimanche 9 avril... On fêtera la victoire de la rue, hein, je crois, Azilis, sur la réforme des retraites.
Oui, aucun doute là-dessus.
Et on parlera, eh bien, si tu sais de quoi on va parler, appelle au 02 40 12 09 12, parce que nous, on n'a toujours pas trouvé. À dimanche.
À dimanche.
À dimanche.
À dimanche.
Au revoir.
Bon dimanche.
Bonjour.
Game over.